Alors, effectivement, ce soir, je vais essayer de vous parler de quelque chose qui, pour moi, est un peu plus délicat que strictement les narrations de recherche en mathématiques. Il se trouve que j'ai été enseignant de mathématiques et que j'ai, à cette occasion, enseigné les mathématiques en anglais dans des classes de lycée en première et en terminale. Et ce que je voudrais vous faire partager ce soir, c'est plus une réflexion de praticien, de professeur, et de voir un peu toutes les questions que cet enseignement d'une discipline non linguistique dans une langue étrangère peut poser, et puis d'essayer de faire le parallèle avec l'enseignement et du côté des élèves avec l'apprentissage dans la langue maternelle, dans la langue de tous les jours. Alors, lire, écrire, apprendre dans une langue étrangère, c'est effectivement le titre de ce que je vais essayer de vous raconter. Alors, ça serait bien aussi que, mais si vous avez à un moment donné envie de m'interrompre, envie de me poser une question, envie de réagir sur un des propos que je tiens, n'hésitez surtout pas, hein, vous pouvez le faire. Au contraire, ce serait plus intéressant si on peut avoir un dialogue autour de ces choses-là. Alors, je vais essayer de vous présenter cette problématique, la présentation de la problématique dans un premier temps. Un deuxième temps, je vais reprendre ma casquette de mathématicien et essayer de regarder un exemple en mathématiques et le relier à l'évaluation. Et puis, dans un troisième temps, essayer de regarder ce qu'on peut voir au niveau de l'enseignement dans une langue étrangère d'une discipline. Est-ce qu'il y a des ponts, des passerelles? Est-ce qu'il y a moyen de faire des transpositions dans l'enseignement ordinaire, si j'ose dire? Alors, pour commencer, donc le cadre des enseignements, je pense que tout le monde est au courant, mais je vais quand même un petit peu le rappeler. C'est ce qui s'appelle en France les enseignements DNL, discipline non linguistique. Au niveau européen, on parle plutôt de CLIL, Content Language Integrated Learning. Et en France, c'est très lié à une circulaire de 92 qui mettait en place dans l'enseignement des collèges et des lycées les classes européennes et plus spécifiquement dans le lycée des enseignements en discipline non linguistique. Je dis plus spécifiquement parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites, que vous connaissez sans doute, où il y avait aussi, au niveau des collèges, des enseignements de disciplines non linguistiques, mais d'une façon plus généralisée, si je peux dire. Au collège, il y avait un enseignement de langue qui était renforcé. Enfin, il y avait, je ne parle pas au passé, il y a un enseignement de langue qui est renforcé. Et puis, à partir de la classe de seconde, un enseignement d'une discipline ou une partie d'une discipline dans la langue, dans une langue étrangère. Alors, en l'occurrence, moi, ce que je faisais, c'est que j'enseignais une partie du cours de mathématiques en anglais à des élèves de lycée. Alors, là, j'ai regardé au niveau de ce contexte, regardé un peu ce qui se passait au niveau des épreuves du baccalauréat. Alors, il y a une épreuve du baccalauréat et dans le BO de 2003, on apprend que l'épreuve vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats scolarisés en section européenne. Donc, vous voyez déjà, là, il y a un premier point d'achoppement pour un professeur qui va enseigner sa discipline dans une autre langue. C'est que l'objectif, si on en prend, si on regarde simplement au niveau de l'épreuve du baccalauréat, eh bien, ça vise à apprécier le niveau de langue et pas forcément dans le niveau de connaissances acquises dans la discipline. Donc là, il y a déjà une première question qui se pose. Est-ce que un professeur de mathématiques, est-ce que moi, comme professeur de mathématiques, j'ai les compétences nécessaires à apprécier le niveau de maîtrise de la langue d'un élève scolarisé dans ma section? Et puis en parallèle de ça, j'étais aussi regardé un peu la littérature dans d'autres pays, et en particulier un collègue anglais qui parlait des principes et des principes de content language integrated learning, et on voit bien que dans les principes qu'il énonce ici, il y a quelque chose de plus, une approche cognitive. Teaching and learning, c'est-à-dire aussi bien de l'enseignement que de l'apprentissage. Et puis, cette approche, elle va mettre en œuvre à la fois des connaissances, des compétences, un intérêt pour la discipline et des expériences réalisées. Alors, voilà ici à peu près tout le problème qui se pose, c'est la langue, la discipline et les relations qui peuvent exister entre cette langue et cette discipline. Alors j'ai repris ici quelque chose d'une collègue de l'université de Nottingham qui parle des 4 C pour décrire justement ces expériences de DNL ou de CLIL, si on le dit au niveau européen. Et donc dans ces 4 C, elle parle d'abord du contenu, donc effectivement le sujet, le thème, le projet, ce qui fait le cœur de l'enseignement à un moment donné. Et puis, dans un deuxième temps, le deuxième C qu'elle aborde, c'est la communication, c'est-à-dire le langage. Et là encore, il y a une distinction, mais je pense que vous l'avez déjà fait bien, bien longtemps avant moi, et avant Doug Coyle. Le langage comme apprentissage, mais aussi le langage pour l'apprentissage, et enfin le langage comme un vecteur de l'apprentissage. Donc il y a ces trois dimensions dans le langage. Donc c'est ce deuxième C autour de la communication. Et puis la troisième, tout ce qui tourne autour de la pensée, de la cognition, et puis je rajouterais aussi de la métacognition, c'est-à-dire de la réflexion sur ce qui est appris. Et puis comme CLIL, DNL, c'est dans un cadre européen, il y a le quatrième C qui concerne aussi la culture particulière de la discipline dans un autre curriculum ou dans une autre culture. C'est tout à fait intéressant, par exemple, pour les mathématiques, de regarder comment les mathématiques sont enseignées dans d'autres pays européens. Et on s'aperçoit qu'il y a des notions qui paraissent tout à fait élémentaires et qui sont enseignés très tard dans d'autres pays, ou qu'au contraire, des notions qui nous paraissent, ou en tout cas qui apparaissent dans les programmes de mathématiques très tardivement, qui sont enseignées dans d'autres pays très tôt pour des élèves. Ces décalages, c'est aussi intéressant de les regarder au niveau des objectifs fondamentaux qu'il peut y avoir autour de l'enseignement. Les mathématiques en France, je vous en ai parlé pas mal avec les narrations de recherche, tendent à amener les élèves à arriver à la démonstration mathématique, à la démonstration formelle des mathématiques. Et de cette manière-là, en France, souvent, cette démonstration apparaît comme quelque chose d'assez sclérosé, d'assez stéréotypique, qu'il faut absolument reproduire. Et on s'aperçoit, par exemple, dans la culture anglo-saxonne, qu'on a ces notions de démonstration qui sont plutôt secondes, et c'est plutôt l'usage qu'on va pouvoir faire des mathématiques dans des situations réelles, dans des situations de la vie de tous les jours, qui vont être valorisées. Donc tout ça, c'est cet aspect de la culture. Et évidemment, Si on essaye de regarder ce cadre de l'enseignement dans une discipline non linguistique autour de ces quatre C, de ces quatre thèmes, eh bien, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et en particulier les premières questions qui se posent, c'est l'équilibre des quatre C dans un enseignement. Quid du contenu? quid du langage et comment articuler l'un avec l'autre. Si on ne fait que du contenu et pas de langage, ben on va certainement rater quelque chose. Hein. On passe toujours en prenant des positions extrêmes pour arriver à voir ce que ça peut donner. Les questions aussi de l'évaluation et du rôle de la langue dans cette évaluation. Et ça, je vais y revenir encore un petit peu plus tard. Qu'est-ce que dans une épreuve, et on va essayer de regarder une épreuve telle qu'elle a été posée au baccalauréat, qu'est-ce qui relève de la langue et qu'est-ce qui relève de la connaissance disciplinaire, mathématique ou autre? Et puis l'autre aspect aussi, une question de l'adéquation des méthodes d'évaluation habituelles dans ce cadre particulier. Alors il y a eu un travail très très intéressant qui a été fait en Autriche par Önich, qui était justement pour d'essayer de regarder l'adéquation, que les méthodes d'évaluation habituelles dans le cadre de l'enseignement des NL pouvaient apporter ou au contraire pouvaient empêcher. Et puis un autre aspect aussi, qui est aussi une question qui se pose dans ce cadre-là, c'est l'adéquation du langage de la discipline et du langage courant. Quand on fait des mathématiques ou de la physique ou de l'histoire et géographie, ben forcément il y a un vocabulaire spécifique, il y a des expressions spécifiques. Et quand on regarde les objectifs, c'est de la maîtrise de la langue, mais la maîtrise de quelle langue? La maîtrise du langage courant de communication, ou est-ce que c'est la maîtrise du langage de la discipline très très particulière? Et puis, bon, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça, c'est véritablement un problème fondamental. C'est les relations qui peuvent exister entre la langue comme média et puis la langue comme un objet d'apprentissage. Donc, à quel moment on apprend la langue et à quel moment on utilise la langue pour apprendre. Alors, toutes ces questions, ça amène à regarder également les problèmes d'évaluation et en particulier Keith Kelly qui parle d'évaluation avec un risque linguistique et puis il le met sur une échelle de faible à fort, un risque linguistique faible et puis jusqu'à un risque linguistique fort. Et en particulier, il prend des exemples. Et par exemple, ici, ce que vous avez au tableau, c'est pas la peine d'arriver à lire, mais l'idée, c'est toujours en mathématiques d'avoir une représentation graphique, un graphique, et puis d'interpréter ce graphique. Alors si on donne la question simplement sur l'interprétation de ce graphique et demander à des élèves de l'interpréter, d'écrire leur interprétation du graphique, d'en donner des conséquences, eh bien là, on va avoir un risque linguistique fort, puisqu'il va falloir que les élèves écrivent un certain nombre de phrases, maîtrisent la langue de communication pour pouvoir arriver à écrire leur résultat, à expliquer ce qu'exprime ce graphique. Et puis un autre aspect, donc de l'autre côté, c'est d'avoir l'exercice qui est proposé ici, match graph data with figure and text, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de textes, de phrases qui sont proposées, et puis il faut savoir si cette phrase est vraie ou fausse dans le contexte de ce graphique ou non. Et donc là, on voit bien qu'il y a des risques linguistiques qui sont différents, et au niveau de l'évaluation, eh bien, se pose ce problème. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Un élève qui ne sait pas répondre à la première consigne, c'est-à-dire d'arriver à interpréter et donner son interprétation de la représentation graphique qui est fournie, est-ce que il pêche parce qu'il n'a pas le vocabulaire nécessaire pour interpréter le graphique? Est-ce qu'il pêche parce qu'il ne sait pas lire le graphique et qu'il ne sait pas l'interpréter? Et évidemment, dans cette évaluation, on a les deux aspects qui peuvent apparaître. Pour arriver à faire la distinction de l'un à l'autre, eh bien, trouver un certain nombre d'épreuves qui permettent justement cette d'avoir ce risque linguistique plus faible. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, je change de. C'est un sujet. Je vais le remettre dans son écran initial. Donc c'est un sujet effectivement que j'ai piqué dans des annales de baccalauréat général et technologique, session 2009. C'était dans l'académie de Créteil-Versailles, Paris-Créteil-Versailles, mais bon, on peut très bien imaginer que c'est dans n'importe quel endroit. Alors ce que je veux essayer de montrer à travers ce sujet, hein, c'est pas de faire de le sujet, mais c'est justement d'évaluer un petit peu à travers le sujet ce qu'il y a de mathématiques et ce qu'il y a de linguistique à ce niveau. Donc c'était anglais mathématique, hein, ici, et vous voyez par exemple le début du sujet commence avec des diagrammes, donc avec une représentation, avec un type de représentation qui est complètement en dehors du domaine linguistique. Simplement, le problème qui va se poser ici, on peut quasiment le deviner en regardant juste ces quatre figures. Vous voyez qu'il y a une dynamique qui se crée. On a quatre points qui sont reliés, puis après on en rajoute pour faire une grille de plus en plus grande. Et il va falloir certainement dénombrer le nombre de points, le nombre de segments, la longueur des segments en général, l'air, etc. Donc vous voyez que a priori dans cet exemple, eh bien pratiquement, dès le départ, on propose aux élèves une tâche qui est complètement en dehors du problème linguistique. Et puis, ben, effectivement, c'est ce qui apparaît, hein, les trois premiers diagrammes présentent sont en suite. Et puis, eh ben, on va demander effectivement dans le premier diagramme quel est l'air, quel est le nombre de points, quel est le nombre de lignes de 1 cm, puisqu'on a expliqué plus haut que chaque ligne avait 1 cm. Et vous voyez que ici, très rapidement, on rentre dans le problème de mathématiques et qu'on a pratiquement. Alors j'ai voulu chercher à un moment, parce que ça m'avait beaucoup intéressé, comme j'enseignais dans des classes européennes, une des idées, le quatrième C de ces classes européennes, c'est la culture, et c'est donc d'aller voir aussi dans les autres pays ce qui se passait. Et une année, j'avais tout à fait par hasard correspondu avec une classe au Japon. On correspondait, enfin c'est pas moi qui correspondais, c'était plutôt mes élèves qui correspondaient avec des élèves japonais, et qui essayait de parler un petit peu de mathématiques. Et puis, au bout d'un temps, il nous avait envoyé des fiches. Alors, c'était écrit en japonais. Donc, la fiche élève était écrite en japonais. Et alors, c'était très intéressant parce que, sans connaître absolument rien de la langue, il était quand même possible, à travers les mathématiques sous-jacentes, de voir à peu près le problème qui était posé et éventuellement de répondre à ce problème sans lire du tout ce qui y avait tout autour des mathématiques. Et voilà, c'est un petit peu ces éléments que je souhaitais montrer et partager avec vous, de regarder un petit peu. Bon, après, il y a un certain nombre de questions. Bon, là, on peut dire pratiquement qu'il y a un risque faible au niveau de la langue, puisque pratiquement, quand on a le tableau, on sait bien qu'il va falloir compléter les cases vides avec ce qu'il y a dedans. Alain, oui, tu voulais. Eh ben les maths. pratiquement, qu'est-ce qui me permettait ? Il y avait des problèmes, un problème de géométrie. Il y a une représentation un dessin de la figure sur lequel on est en train de travailler. Bon, ben ce dessin, avec un ou deux indices où on voit que à la fin il va y avoir AB qui va être demandé. Bon, on voit à peu près comment il va falloir faire. Oui, en gros, hein, j'ai pas beaucoup progressé en japonais, je te rassure, mais on voyait, alors peut-être pas dans tous les exercices, on peut imaginer aussi que certains exercices sont complètement textuels et traduits. Alors là, ceux-là, ils sont pas abordables, mais à partir du moment où il y a dedans un langage algébrique, ou une représentation géométrique, ou comme c'est ici une représentation en diagramme graphique de la situation, ben évidemment le langage qui est le vecteur ici est moins important que la situation mathématique. Oui, pratiquement, mais pas vraiment, parce que ouais, on est sur le langage universel, mais quand même, si on veut écrire tout en mathématiques, ça va être difficilement lisible. C'est-à-dire que n'importe quelle démonstration mathématique va quand même utiliser une langue de support. On peut écrire des démonstrations purement en utilisant le langage mathématique, purement le langage logique. C'est des travaux qui ont été faits, et notamment tous les travaux des logiciens de la fin du 19e siècle, du 20e siècle, qui justement essayaient d'arriver au plus près, essayaient de trouver ce qu'il y avait, d'éliminer tout ce qui pouvait y avoir autour des mathématiques et rester simplement sur la structure logique formelle des mathématiques. Mais on sait bien que ça, c'est au bout d'un temps, c'est intenable. C'est-à-dire que pour arriver à écrire une démonstration qui serait très 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 simple à écrire en une page, il faudrait une centaine de pages, parce que il faut tout détailler. Alors oui, les mathématiques sont un langage, et oui, on va pouvoir trouver plein d'indices dans un texte de mathématiques dans une langue étrangère qui sont bien au-delà de la langue, mais non, c'est pas qu'un langage, quoi. Il y avait une autre intervention.
C'est une curiosité pure. Quand ils codent une figure, ils utilisent, les Japonais, ils mettent A et B, ou ils mettent des signes à eux?
Alors les lettres dans les bouquins que j'ai eus, moi, c'était les lettres latines, oui, c'était A et B, le codage. Alors ça, c'était une des surprises. Et par exemple, écrire une équation, l'équation va s'écrire 5x2 plus 3x plus 2 égale 0, exactement de la façon dont on l'écrit nous aussi. Enfin, dans les textes, en tout cas. Alors dans les textes que j'ai lus, hein, je suis pas spécialiste de la littérature des mathématiques japonaises. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc ça s'arrête ici. Hein, c'est voilà. Moi, j'enlève. Voilà, vous avez le tableau en haut. Donc ensuite, on demande de trouver l'air et le nombre de points en fonction de l'étape. On demande d'expliquer la formule pourquoi on obtient que z c'est 2n que multiplie n plus 1. Et puis ensuite, il y a un calcul. Alors là aussi. Ce calcul-là, il peut s'entendre pratiquement juste en regardant les symboles mathématiques qui sont proposés. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a ici un 2 tiers de n au cube plus fn carré plus gn. Il y a des choses qui gênent. 2 tiers, c'est bien. N, c'est l'étape. Et puis, il nous faut f et g, quoi. Il va falloir calculer f et g. Et comment calculer f et g? Eh bien, on va trouver les renseignements un peu plus haut. On sait que f plus g va être égal à 10 tiers. Il suffit de regarder dans la première colonne du tableau. Dans la deuxième colonne du tableau, on a 4f plus 2g égale 32 tiers. Et puis, bon, voilà, on a un système de deux équations à deux inconnues. Et puis, en terminale scientifique, les élèves sont sur une autoroute, là, et ils lancent leur technique et ils arrivent jusqu'au bout. Voilà. C'est pas toutes les preuves non plus, hein, mais vous voyez que dans la lecture, ce que je voulais montrer en regardant cette épreuve, c'est que dans la lecture de l'épreuve, le risque linguistique pris par les élèves est très faible, quasi inexistant. Alors après, dans la restitution, il va y avoir autre chose. Il va falloir expliquer un petit peu ce qui a été fait. Alors peut-être qu'un élève qui pourrait essayer de rester à un niveau uniquement mathématique et avoir un minimum de langage tout autour, mais c'est contraire à l'objectif du baccalauréat que je vous ai exprimé tout à l'heure. Alain, il y a une intervention là, puis après je te donne la parole.
Juste une précision, on parle de risque linguistique, mais si je comprends bien, ça c'est une épreuve écrite. ce que j'ai là sous les yeux. Là.
Non, c'est une épreuve orale.
Parce que dans la définition de l'épreuve au baccalauréat, enfin moi je suis en lycée professionnel, ce n'est que de l'oral.
Alors en fait,
alors là, c'est pour les lycées technologiques.
C'est pour les lycées technologiques et en fait les élèves donc section européenne langue orientale académie et les élèves préparent. C'est un oral, c'est-à-dire qu'on leur donne cette fiche. Ils ont je me rappelle plus le temps, mais un quart d'heure ou
20 minutes de préparation.
Et ensuite ils oralement ils doivent présenter leur solution à un jury. Lequel jury est composé en principe d'un professeur de la discipline et d'un professeur de langue.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, il y a une discussion avec le candidat autour de ce qui a été fait dans l'année, une discussion, quelques questions. Mais l'épreuve se passe de cette manière-là. Oui. Mais c'est oui. C'était un petit peu cet aspect-là et qui moi à mon avis pose problème, qui m'a posé problème comme professeur et que je voulais mettre aussi un peu en exergue ici en montrant l'évaluation du baccalauréat. C'est quand même dans le BO écrit que l'épreuve vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats scolarisés en section européenne et ne parle pas du niveau de la discipline. Oui, mais alors je n'ai pas ici, mais il y a effectivement des grilles d'évaluation qui sont données en regard de ces sujets et qui détaillent un petit peu et donnent un peu plus de critères par rapport. Mais vraiment. Les sujets sont faits de telle sorte que la difficulté dans la discipline ne doit pas être trop importante de façon à ne pas masquer la possibilité pour l'élève de s'exprimer dans la langue étrangère qu'il a choisie. Donc c'est vraiment... Et c'est justement, oui, c'est un petit peu c'est un petit peu la difficulté. Oui, tout à fait, oui. Mais en même temps, le sujet tel qu'il est présenté, c'est quand même le baccalauréat. Là, c'est le baccalauréat général. On pense que mathématiques en anglais, c'est plutôt dans les filières scientifiques. Le problème n'est pas difficile, quoi. C'est le problème.
C'était ce que j'allais te demander. C'est-à-dire que moi, il me semble que le niveau d'exigence en contenu de savoir disciplinaire. Dans l'exercice là que tu nous proposes, il n'est pas très élevé. La preuve, c'est que j'arrive à suivre jusqu'à peu près la moitié. Donc normalement, c'est la preuve que ça ne doit pas être quand même extrêmement compliqué.
Non, c'est pas très compliqué. Justement, c'est le fait que ce ne soit pas. Alors, c'est justement un des aspects qui me paraît être problématique. C'est le fait que au niveau de la discipline, ça ne soit pas compliqué, fait que finalement. La langue n'est pratiquement pas obligatoire, quoi. C'est ce que j'essayais de montrer en décomposant les choses pratiquement sans lire, en regardant. Et c'est le parallèle que je faisais avec le texte en japonais. Il y a certaines choses, en connaissant un petit peu de mathématiques, c'est plus la peine de regarder. Et effectivement, dans cette épreuve. Et donc, ça pose des problèmes de l'évaluation, hein. C'est bien ces problèmes d'évaluation qui sont.
Mais il faut comprendre l'écrit, le problème, pas pour être fait mathématiquement avec une difficulté, mais ça sera être évalué à l'oral, non ?
Oui, ça va être évalué.
Donc on va évaluer l'oral à partir d'un support mathématique.
Voilà, ça va être, ça va être.
Donc bon. on va bien évaluer une langue au final.
Alors, on va bien évaluer la langue, mais justement, il y a dans la langue différents aspects, l'aspect de lecture, l'aspect d'écriture, l'aspect d'oral, de dire et d'écouter, tous ces aspects-là. Et il me semble que. Certains sont privilégiés et d'autres sont un peu laissés de côté de cette manière.
Si je peux me permettre, en fait, moi, ça me rappelle, tu sais, comment est-ce qu'on rentre en lecture par des prises d'indices. Et en fait, au niveau de la lecture du sujet, c'est une proposition de lecture indicielle, c'est-à-dire que le lecteur va prélever des éléments d'information dans une production textuelle qui lui est proposée, dont peut-être il ne peut pas comprendre tout le contenu. Puis en fait, il va recomposer le sens à partir des indices de sens qu'il connaît. Ouais. Donc c'est une aide. La discipline est presque un prétexte ou une aide pour rentrer dans la langue. Par contre, où ça devient une vraie épreuve linguistique avec production textuelle, pour le coup, ouais, orale mais textuelle, ouais. C'est dans la restitution orale.
Hein. Oui, tout à fait.
Donc, il me semble qu'on est vraiment, enfin, pour moi, dans l'analyse, c'est quand même bien sur une évaluation de la langue. Voilà. Et que oui, il y a un prétexte disciplinaire qui va permettre de comprendre.
Alors voilà. c'est justement ces aspects que moi je montrais d'une façon très très objective pour essayer de faire voir un peu tous les problèmes qui pouvaient y avoir, comment ça pouvait être fait et comment ça pouvait être pris en compte au niveau de la classe et bon justement ce tu m'y amènes c'est comment ensuite prolonger et essayer d'en tirer quelque chose pour d'autres disciplines et en particulier pour les compétences de lire, d'écrire, les compétences 1, enfin, du socle commun.
J'ai un désaccord avec toi, Martine, mais ce n'est pas la première fois. Mais on s'entend bien, hein, on ne se tape pas dessus, mais on n'est pas toujours d'accord. Je pense que l'idée, comme tu l'as présentée, qui en fait cherche à établir un lien entre la langue et la discipline, en faisant de l'une le prétexte pour aller dans l'autre, n'est pas exactement ce qui se passe. En réalité, il me semble que ce qui est attiré des compétences, de l'idée de compétence, c'est qu'il faut que chaque discipline, et on l'a vu dans l'atelier avant avec Solveig ou ce matin, que chaque discipline pense quels sont les textes de sa langue, de la discipline. Et non pas la langue, mais les textes. Et ce qui est commun, commun, ça veut dire que c'est 100% langagier et en même temps 100% disciplinaire, c'est bien le texte. Ce que tu nous as montré comme sujet, c'est un texte de maths.
Ah, complètement. Oui.
Mais c'est aussi un texte en anglais. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une part de mathématiques et il y a une part d'anglais. C'est la même chose. C'est 100% de l'anglais et 100% des maths. Et donc, ce concept de texte constitue une zone d'interférence qui est commune, non pas au sens où elle est plus que partagée, c'est le même objet, indissociable. Et donc il ne s'agit pas de trouver des liens, de type prétexte qui permettraient de rentrer dans la discipline ou de rentrer dans la langue, mais bien de trouver quel est l'objet de travail commun, indissociablement commun, et le texte en est un. Si on sait ce que c'est qu'un texte mathématique, on comprend un texte mathématique en japonais. Tu nous en as donné l'expérience. En gros, dans ces grandes lignes, hein, peut-être pas dans tous les détails.
Oui,
mais c'est bien le texte mathématique en japonais qui te permet de comprendre le problème mathématique dont il s'agit. Donc voilà, c'est l'objet texte qui me semble constituer notre objet de travail principal dans cette formation. Qu'est-ce que c'est qu'un texte dans chacun des environnements constitués par une discipline pour ce que tu nous présentes?
Alors, juste pour continuer, je regardais sur les compétences linguistiques, évaluation de continu disciplinaire. Je regardais les compétences du pilier 1 et quand on regarde dans lire, repérer des informations dans un texte à partir de ces éléments explicites et des éléments implicites nécessaires ou manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés, on est effectivement là complètement dans ce genre de mise en œuvre de la compétence. Et effectivement, je rejoins un peu dans un texte mathématique, eh bien, on va piquer les indices des mathématiques. Je suis un peu moins d'accord avec toi sur le 100% mathématique et 100% linguistique. Il me semble qu'il y a quand même à chaque fois un peu un partage des responsabilités, si j'ose dire, entre les deux. Mais effectivement, le texte ici est le support absolu pour arriver à repérer un certain nombre de compétences. Alors si on enlève le contexte que je donnais de l'enseignement dans une langue étrangère, mais si on reprend l'enseignement des mathématiques dans la langue naturelle, eh bien on voit bien en même temps aussi les difficultés et ou les facilités que les élèves pourront avoir en lisant un texte à développer ces compétences de lecture et enfin ces compétences lire qui sont indiquées dans le pilier. Et juste un deuxième aspect, je reprenais aussi les compétences dire, formuler clairement un propos simple, favoriser la transposition orale d'un langage codé. Là, on est effectivement dans le cas des mathématiques complètement dans cet aspect-là. Et l'expérience qu'on a pu avoir où la compétence 1 du socle était complètement repoussée vers les collègues de français et absolument pas abordée dans les autres disciplines, ça se paraît être complètement en contradiction avec ce qu'on peut voir ici et voir que dans un texte mathématique. Alors ce petit décalage quand on le regarde en anglais ou quand on le regarde en japonais, ça permet de bien comprendre ce qui se passe aussi dans la langue naturelle, puis développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé. Et ça, c'est effectivement un des aspects de l'évaluation qui est demandé dans la DNL, puisque les élèves, une fois après avoir préparé, vont avoir à rendre compte de façon suivie de leur problème. Donc voilà cette petite chose concernant la discipline non linguistique. Oui.
Alors, compétences lire et compétences dire, je trouve que dans le socle, la compétence 2 est beaucoup plus explicite. Et elle renvoie d'ailleurs au cadre européen, dans lequel il y a des descripteurs tout à fait intéressants en termes de qualité, des descripteurs qualitatifs qui sont très intéressants et qui nous permettent d'ailleurs de nous raccrocher, nous, langue maternelle, à la langue vivante étrangère, dès qu'on se situe au niveau C2. Si vous regardez les descripteurs du niveau C2, ce sont des descripteurs qui renvoient à des compétences qui, quelquefois, nous dépassent. Et je pense que si on doit prendre quelque chose dans le socle pour la DNL, c'est la compétence 2.
Oui, certes, mais pas seulement. Il me semble que aussi c'est. Enfin, bon, alors on va pas revenir sur une discussion qui me semble a déjà eu lieu sur la différence dont les compétences sont présentées, le niveau de précision de l'une et de l'autre. Mais il me semble que ici, je m'écarte un peu de DNL, mais simplement je regarde dans une discipline en mathématiques, est-ce que on peut évaluer c'est la compétence lire, et je regardais ces deux items qui sont proposés ici, que j'ai extraits. Il me semble que c'est tout à fait ça, repérer des informations dans un texte à partir de ces éléments explicites, des éléments implicites nécessaires. On est complètement dans la lecture d'un énoncé mathématique. C'est une compétence qu'on développe quand on demande aux élèves de lire un problème de maths et d'arriver à travailler sur ce problème de maths et ensuite de
mais on a exactement le même aspect réception dans la maîtrise de la langue étrangère, oui. Mais avec des descripteurs beaucoup plus précis qui nous permettent d'ailleurs d'avoir des niveaux.
Tout à fait, oui. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Ce que je voulais dire simplement, c'était par rapport à ce que nous on avait pu observer dans des classes de collège où il y avait, enfin dans des collèges où il y avait une volonté de séparer disciplinairement les compétences. En gros, la compétence 1, c'était du ressort du prof de français, et surtout le prof de maths ne s'aventurait pas à regarder ça, ce qui moi me paraît un petit peu dommage. Et justement, ces exemples là et ce petit pas de côté avec la discipline non linguistique permet de bien voir qu'effectivement il y a ces compétences qui sont travaillées. Donc c'était uniquement à ce niveau-là.